أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Dans mon sermon du vendredi précédent, j'ai attiré l'attention des Ahmadis concernant les conditions de la Bayra, du serment d'allégeance, et je leur ai fait comprendre leurs responsabilités en tant qu'Ahmadi. J'ai cité les écrits du Messie premier al-Islam pour expliquer chaque condition de la Bayra. En lisant ces conditions, en écoutant ou en lisant les écrits du Messie promis à l'Islam, c'est en méditant à ce sujet que l'on comprend que le Messie promis à l'Islam voulait que les vrais enseignements de l'Islam puissent pénétrer à notre fort intérieur. Et pour ce faire, il voulait réformer nos croyances, nos doctrines, et il voulait aussi réformer nos actions afin d'apporter en nous une grande révolution. Car sans cela, l'on ne pourra pas atteindre l'objectif sublime de son avènement. Son avènement était important pour notre époque. Son avènement est important aujourd'hui. C'est grâce à son avènement que l'on pourra se rapprocher de Dieu. Le Messie promis à l'Islam dit à ce sujet, Dieu désire cela grâce à cette communauté. Et il m'a fait comprendre que la taqwa a diminué et que certains sont coupables d'indécence ouvertement. Ces personnes vivent dans l'immoralité, dans la turpitude. Certains ont souillé leur action. Et ces personnes ne savent pas que si du poison tombe dans une nourriture saine, eh bien cette nourriture sera empoisonnée. Certains sont coupables de petits péchés, à l'instar de l'ostentation, des petits péchés dont les branches sont très subtiles. Apparemment, ces personnes se croient pieux, se croient vertueux, mais ces personnes sont victimes d'orgueil, d'ostentation, sont coupables de ces péchés qui sont très subtils, des péchés que l'on voit grâce au microscope de la dévotion. Il a déclaré ensuite, Allah a décidé de montrer au monde ces exemples de taqwa et de pureté. Et c'est pour cette raison que Dieu a établi cette communauté. Il désire la pureté et il désire ainsi établir une jamaat pure. Ainsi donc, Dieu a établi cette jamaat et ceux qui se joignent à cette jamaat doivent se purifier afin d'établir cette jamaat pure. Et le Messie premier, l'Islam, désire pour chacun d'entre nous que nous utilisions ce microscope de la dévotion afin que nous puissions examiner notre nafs, notre âme, afin de l'analyser, afin que nous puissions nous réformer au niveau de nos croyances, afin que nous puissions aussi éviter tout type de péché, même insignifiant, afin que nous puissions nous réformer, afin que nous puissions regarder de près nos actions. Et c'est ce microscope de la dévotion qui va grossir la moindre erreur. Car la tâche du microscope est de grossir des objets qui sont très petits. Ainsi, afin de voir ses péchés, afin de voir ses erreurs, afin de voir de près ses erreurs, il faut utiliser ce microscope grâce auquel l'on pourra analyser notre nafs. Il est important aussi de faire notre analyse de conscience. Nous déclarons que nous sommes des Ahmadis. Nous déclarons que nous appartenons à la jamaat du Messie promis à l'Islam, une jamaat qu'il a établie. Et ces déclarations ne sont pas insignifiantes. La déclaration que nous sommes des Ahmadis n'est pas insignifiante et cette jamaat n'est pas sans importance non plus. Allah désire faire de cette jamaat une jamaat des gens purs. Et c'est pour cette raison qu'il a envoyé le Messie promis l'Islam. Tout Ahmadi doit comprendre que cet exemple de vie empli de taqwa et de pureté pourra apporter cette révolution. C'est cet exemple de vie empli de taqwa et de pureté qui pourra apporter ces changements révolutionnaires. Et ces changements révolutionnaires concernent la réforme de nos croyances et concernent aussi le fait que nous devons réformer nos actions. Il ne suffit pas de réformer ses croyances et sa doctrine. Cela ne suffit pas tant qu'on ne réforme pas aussi ses actions. Ainsi donc, chacun d'entre nous doit se soucier de ses actions. Quelle doit être notre croyance? Quelles sont les actions que nous devons accomplir et à propos desquelles nous devons être vigilants? Je viens de citer le Messie promis à l'Islam et il nous encourage d'être vigilants quant aux moindres bonnes œuvres et de les mettre en pratique. Voilà ce qu'a dit le Messie promis à l'Islam. Le Messie promis à l'Islam a évoqué davantage sa croyance et les actions que nous devons accomplir, le niveau que nous devons atteindre dans ce domaine. Il fait comprendre cela aux membres de sa jamaat. Et il nous explique le résumé de notre foi et notre croyance. Dans cet écrit du Messie promis l'Islam, nous allons comprendre ce que c'est que notre doctrine et on va comprendre aussi les actions qui sont liées à cette croyance. Le Messie promis l'Islam déclare que le résumé et le fondement de notre foi est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. C'est-à-dire, nul n'est digne d'être adoré à part Allah et Mohammed est son prophète. La croyance que nous chérissons ici sur terre et qui, par la grâce de Dieu, nous accompagnera jusqu'à notre départ de ce monde et que notre maître et leader est le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et qu'il est le sceau et le meilleur des prophètes. La religion est arrivée à son apogée par son entremise, et la grâce qui conduit l'homme sur les voies de la vertu pour le mener à Dieu est arrivée à son couronnement par l'entremise de ce prophète. Nous avons la ferme conviction que le Saint-Coran est le dernier livre révélé et pas un seul iota ne pourra être ajouté ou retiré de ses injonctions, de ses commandements ou de ses enseignements. Il ne peut y avoir de révélation de la part d'Allah qui puisse amender, qui puisse abroger ou changer quelques commandements du Saint-Coran. Si quelqu'un pense autrement, eh bien cette personne s'est à nos yeux exclue de la communauté des croyants. Il est un apostat, un mécréant. Nous avons la foi que l'on ne pourra pas suivre le stade le plus inférieur de la Salat al-Mustaqim sans suivre notre prophète, le saint prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et l'on ne pourra pas atteindre le stade le plus élevé sur la Salat al-Mustaqim sans faire preuve d'une obéissance sincère et parfaite envers le saint prophète Mohammed paix sur lui. L'on ne pourra jouir d'aucun statut, d'aucun honneur, d'aucune proximité avec Dieu sans passer par l'entremise du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que nous allons recevoir ne sera qu'un reflet du saint prophète. Et nous avons aussi cette foi que les pieux et les justes qui ont profité de la compagnie du saint prophète Mohammed paix sur lui ont atteint l'apogée dans ce domaine. Et les excellences que nous recevons ne sont que le reflet de leur excellence à eux. Et il y a d'autres faveurs qu'ils ont reçues que nous ne pourrons pas recevoir, nous. C'est-à-dire, ces personnes qui ont vécu en compagnie du saint prophète ont reçu des faveurs que nous ne pourrons pas recevoir aujourd'hui. Parce que ces personnes ont profité de la compagnie du saint prophète. Le Messie premier, alayhi salam, déclare que l'islam repose sur cinq piliers. Voilà notre croyance en nous. Nous suivons la parole de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Coran, tel que nous avons reçu l'ordre de le suivre. À l'instar du Farouk, nous déclarons que le Saint-Coran nous suffit. Et comme l'a dit Hadrat Aisha, quand nous voyons des contradictions entre le Coran et les Hadiths, eh bien, nous préférons le Saint-Coran. Nous préférons le Coran aux Hadiths lorsqu'il y a des contradictions entre les deux, en particulier dans le cas de ces récits qui sont douteux. Nous croyons que nul n'est digne d'être adoré sauf Dieu et que notre maître, le Saint-Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et son messager, et il est le sceau des prophètes. Nous croyons dans l'existence des anges, dans l'avènement de la résurrection et du jour de la rétribution, dans la réalité du paradis. Nous croyons dans la réalité de l'enfer. Nous croyons aussi que toutes les déclarations de Dieu énoncées dans le Saint-Coran, ainsi que celle du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, toutes ces déclarations sont vraies. Nous croyons aussi qu'il est un renégat, qu'il est un mécréant, celui qui ôtera un seul iota de cette charia, ou qui en ajoutera quelque chose, ou qui répudiera les injonctions de l'islam. Cette personne qui va répudier ces injonctions du Saint-Coran, cette personne qui va interdire ce que l'islam a permis, cette personne est mécréante. Nous enjoignons à notre djama de porter une foi sincère en la déclaration de la kalima tayyiba, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nous leur enjoignons de mourir en ayant cette croyance au cœur et de croire aussi en tous les prophètes et en tous les livres qui ont été authentifiés par le Saint-Coran. Nous leur enjoignons de respecter les préceptes concernant la prière, le jeûne, la zakat et le hajj, de respecter toute autre obligation ou interdit défini comme tel par Dieu et par son prophète. En somme, de suivre à la lettre les injonctions de l'islam. Il incombe donc d'honorer toute action, toute croyance sur laquelle il y avait le consensus de nos illustres prédécesseurs et qui ont été définies comme l'islam par le consensus des Ahlis Sunna. Nous prenons à témoin le ciel et la terre que telle est notre religion. En expliquant cette croyance, à savoir que tout est éphémère sauf Dieu, le Messie premier l'Islam déclare que Hadrat Isa était un être humain, il était un prophète de Dieu, et qu'en tant qu'être humain, il est décédé. Certes, Dieu l'a sauvé de la mort sur la croix, et lorsqu'il a retrouvé sa santé, après la crucifixion, il est parti jusqu'au Cachemire et il est décédé là-bas. En tout cas, à propos de la croyance sur la mort de Jésus-Christ, il déclare que « J'accepte que Jésus-Christ est mort, telle est ma certitude, c'est ma foi. Je suis sûr et certain qu'il est décédé. Et pourquoi n'aurais-je pas cette certitude? Car mon maître, dans le Saint-Coran, a déclaré que Jésus-Christ est parmi les morts. » Dans le Saint-Coran, on ne trouve pas mention de sa vie miraculeuse ou du fait qu'il reviendra de nouveau sur terre. Au contraire, dans le Saint-Coran, on dit qu'il est mort, et le Saint-Coran est silencieux à ce sujet. Le fait qu'il soit vivant avec son corps d'argile et qu'il va retourner sur terre avec son corps d'argile sur terre est contraire à ce que disent les révélations que j'ai reçues de surcroît. Les déclarations sûres et certaines du Saint-Coran rejettent cette histoire farfelue, c'est-à-dire qu'il y a ces versets clair et net du Saint-Coran qui déclare que Jésus-Christ est décédé. Et le Messie premier l'Islam déclare que j'accepte cela. Il dit que j'affirme que l'histoire de sa vie au ciel n'est que pure fantaisie. Le Messie premier l'Islam déclare qu'il n'y a pas de différence quant à votre doctrine et celle des autres musulmans. Les articles de la foi sont les mêmes. Vous les acceptez et eux aussi acceptent les mêmes choses. Les Ahmadis et les autres musulmans acceptent les mêmes articles de la foi. Et après l'avènement du Messie premier l'Islam, certains aussi croient que Jésus-Christ est mort. Et ils ont aussi changé leur point de vue concernant le Mahdi sanguinaire. Ils croyaient qu'il y aura un Mahdi sanguinaire qui va venir tuer les gens. Et ils ont changé leur point de vue à ce sujet. Deux semaines de cela, au cours de mon sermon du vendredi, j'ai présenté un récit d'un compagnon du Messie premier l'Islam. Il avait un compagnon qui avait rencontré un certain Mullah Muhammad Hussein, qui rejetait l'avènement du Mahdi sanguinaire. Ce compagnon a dit à ce Mullah que le Messie promis déclare qu'il n'y aura pas de Mahdi sanguinaire, mais que vous êtes en train de le critiquer pour cela. Le Mullah a dit à ce compagnon, « Va-t'en, toi tu as accepté Mirza. » Et ce n'est pas la peine de parler à propos de mon point de vue à ce sujet. Ainsi, face au Messie premier l'Islam, dans leur entêtement, ils vont répéter la même chose concernant le Mahdi. Ils vont dire que ce Mahdi va venir, ce Messie va venir. Mais le point de vue de certains a changé à ce sujet. Ainsi, avec l'avènement du Messie premier l'Islam, les musulmans ont corrigé certaines de leurs croyances. Hadrat Muslim Maud, radiyallahu anhu, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, a fait toute une série de sermons sur la croyance et la doctrine de certains musulmans il y a environ 60 ans de cela. Il avait fait plusieurs serments à ce sujet. Il avait déclaré que, qu'en Inde, parmi les musulmans érudits et cultivés, il n'y aura peut-être pas un sur dix qui accepte que Jésus-Christ est toujours vivant. Auparavant, il y avait cette question de l'abrogation des versets du Saint-Coran. Aujourd'hui, on ne trouve plus mention de cette histoire. On ne trouve pas cette même véhémence dans ses croyances. Hadrat Muslim Aoud a aussi prouvé qu'après l'avènement du Messie promis, les musulmans sont sur les défensives concernant certaines croyances qu'ils maintenaient avec véhémence auparavant. Il n'y a plus cette même véhémence. Certains acceptent cela ou d'autres sont silencieux à ce sujet. Nous voyons la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, certains ulémas et certains érudits parmi les Arabes sont en train de condamner les organisations djihadistes. Ils disent que ce djihad qui est prôné aujourd'hui est complètement erroné. Ainsi, nous sommes en train de voir ce changement de point de vue concernant certaines de leurs doctrines fondamentales. On est en train de voir cela après l'avènement du Messie promis, alayhi salam. Et les intellectuels parmi eux, ceux qui ont des relations avec ce monde, sont en train de dire que le djihad qui est prôné aujourd'hui est tout à fait erroné. Ce changement s'est fait après l'avènement du Messie promis, après qu'il ait défini ce que c'est que le djihad, même si ces gens acceptent l'Ahmadiyya ou pas. Et cela est une preuve que les non-Ahmadis sont contraints d'accepter les croyances de la Jamaat Ahmadiyya. Grand nombre parmi ces non-Ahmadis sont contraints d'accepter ces croyances aujourd'hui. Aujourd'hui, le grand débat concerne le statut du Messie promis, alayhi salam, à savoir s'il est un prophète, un nabi ou pas. Mais un jour, ce débat sera clos, Inch'Allah. Quant à ceux qui ne veulent pas accepter notre point de vue et nos croyances et qui s'entêtent, ces gens-là n'ont aucune preuve. Lorsqu'ils ne peuvent pas répondre à nos arguments, ils ont recours à la violence et au meurtre. On voit cela partout dans les pays musulmans. Voilà ce qu'ils font au Pakistan en particulier ou dans certaines régions en Inde. Et c'est là, encore une fois, une autre preuve qu'ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas d'argument qui repose sur le Saint-Coran ou sur la logique pour démentir nos croyances. Quand ils sont acculés, quand ils ont le dos au mur, ils ont recours à la violence. Ainsi, par rapport à leurs croyances, par rapport à leurs arguments, personne ne pourra contrer les Ahmadis. Quant à ceux qui n'ont pas grande connaissance parmi les Ahmadis, ils doivent accroître leurs connaissances, affirmer leurs connaissances. Aujourd'hui, sur la MTA, on diffuse plusieurs émissions à l'instar du Rahihuda afin que vous puissiez apprendre davantage, afin que vous ne soyez pas victime de complexes d'infériorité. Par la grâce de Dieu, la majorité des membres de la Jamaat Ahmadiyya, par la grâce de Dieu, la majorité est ferme dans sa foi. S'il y a quelques-uns qui sont faibles, eh bien qu'ils comprennent que les doctrines présentées par le Messie promis l'Islam sont les doctrines qui concernent l'Islam véritable. Et personne ne pourra pas, par des arguments, rejeter ses croyances. Les quelques personnes qui sont faibles doivent renforcer leur foi et ne doivent pas faiblir. Le Messie premier l'Islam nous a offert toute une littérature bien fournie par rapport à notre doctrine, par rapport à notre connaissance, et il a aussi attiré notre attention concernant nos actions. En ce qui concerne cette littérature qui concerne les doctrines, eh bien sachez que cela a influencé aussi les non-Ahmadis. Mais il ne suffit pas de réformer ses croyances. Le Messie promet l'Islam est venu réformer aussi nos actions. Sans réformer ses actions, eh bien ses doctrines, ses croyances n'auront aucun avantage. Car ce sont ces actions qui vont attirer les autres pour qu'ils se joignent à notre jamaat, pour qu'ils nous écoutent ou pour que tout au plus ils soient silencieux. Ce sont ces bonnes actions, ces changements purs qui sont un moyen de faire l'établir silencieusement. Il y a certains qui se rapprochent de nous, qui sont presque prêts à embrasser l'Ahmadiyya, mais qui s'éloignent par la suite parce que les actions de certains Ahmadis les ont détournées. Ainsi, aujourd'hui, nous sommes en train de nous éloigner de l'époque du Messie promet l'Islam. Il est important de protéger notre croyance, notre foi. Il est aussi important de protéger nos actions. Cela est d'une grande importance. Certainement, nous avons remporté la victoire par rapport à notre doctrine. Mais si nos actions ne sont pas en accord avec ses enseignements, avec sa doctrine, si nous ne traduisons pas dans la pratique ces enseignements, eh bien par la suite nous n'allons porter que le titre d'Ahmadi. Comme nous le voyons dans le cas de la majorité des musulmans. Ils sont coupables de tous les maux. Même s'ils prient, leur prière n'est que formalité. La majorité d'entre eux ne se soucie pas de la prière. Le mensonge est monnaie courante. L'indécence s'étale au grand jour. Quelques jours de cela, j'ai rencontré un ami non-Ahmadi. Il m'a dit que je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a ces musulmans extrémistes qui sont en train de lancer des attaques au nom de l'islam et qui sont en train d'essayer d'établir un système islamique. Ils sont en train de s'attaquer aux écoles, ils sont en train de tuer des femmes, des enfants innocents. Mais, a dit cette personne, lorsque je suis parti au Pakistan, à Islamabad, dans la capitale, sur une route principale, il y a une brasserie dans laquelle on est en train de préparer de l'alcool. Ces extrémistes n'ont jamais lancé d'attaque contre cette brasserie, alors que cela s'étale au grand jour. Ensuite, sur les chaînes de télé, il y a des émissions indécentes. On voit cela aussi au Pakistan. On voit cela sur ces chaînes musulmanes. Et personne ne dit rien contre cela. On ne s'attaque pas à cela. En tout cas, voilà les œuvres de ceux qui disent aimer l'islam. Le saint prophète Mohammed Mustafa a maudit ceux qui fermentent de l'alcool, ceux qui stockent de l'alcool, ceux qui vendent de l'alcool, ceux qui en offrent aux autres et ceux qui en consomment. Ces gens sont capables d'endurer cette malédiction. C'est-à-dire, ils peuvent endurer le fait qu'il y a une brasserie d'alcool là-bas, mais ils n'endurent pas le fait qu'un Ahmadi puisse réciter la kalima. Je disais donc que nous vivons dans cette société et cette société pourra nous affecter. C'est pour cette raison que nous devons prendre des précautions. Nous devons comprendre le but de l'avènement du Messie premier l'Islam et nous devons prendre des précautions concernant nos actions. Les grands en particulier doivent surveiller les jeunes et les enfants. Et les jeunes aussi doivent prendre des précautions. L'ennemi aujourd'hui a pénétré dans les maisons et est en train de lancer ses attaques contre la moralité, est en train de pervertir les actions de tout un chacun. Comme je l'ai dit, il y a ces chaînes de télé qui a changé la norme de la moralité, la norme des bonnes œuvres. Il y a l'Internet et bien d'autres choses Et si nous ne faisons pas un djihad collectif contre cela, non seulement que nous n'allons pas accomplir de bonnes œuvres, mais nous allons tomber dans le giron de Satan. Et il n'y a pas d'autre moyen pour s'en protéger que d'implorer l'aide de Dieu, que d'implorer son soutien. Et il faut lancer ce djihad et implorer l'aide de Dieu. Nous allons devoir supplier Dieu et nous allons devoir implorer son soutien. Pour cela, nous allons devoir implorer Dieu. C'est ainsi que nous serons à l'abri. Il ne suffit pas de dire que je crois en Dieu. Il faut établir cette relation avec Dieu afin que nous puissions nous protéger des attaques lancées par Satan. Ces attaques qui ont atteint jusqu'à nos chambres, de nos maisons. Sinon, il n'y aura pas d'autre issue pour se protéger de ces maladies et de ces vices. On rapporte l'histoire d'un maître et de son disciple. Quand le disciple a complété ses études et qu'il était sur le point de partir, son maître lui a demandé si Satan existe dans le pays où il vit. Le disciple, tout étonné, a répliqué que Satan existe partout. Le maître a dit par la suite, « Si tu mets en pratique tout ce que je t'ai enseigné concernant la religion, concernant la moralité, si en dépit du fait que tu mets tout cela en pratique et que Satan s'attaque à toi, que vas-tu faire ?» Il a dit, « Je vais me battre contre lui. » Le maître a dit, « Mais si tu baisses ta garde et que Satan s'attaque à toi de nouveau, que vas-tu faire ?» Il a dit que je vais repousser ses attaques. Il lui a posé cette question à plusieurs reprises. Ensuite, le maître lui a dit que « Si tu vas voir un ami et que son chien est assis devant sa maison et que ce chien essaye de te mordre, que ce chien s'attaque à toi, que vas-tu faire ?» Le disciple a dit que je vais essayer d'effrayer le chien. Le maître a dit que si tu te contentes de répliquer à ses attaques, tu ne pourras pas atteindre ton ami. Que vas-tu faire ? Le disciple a dit que je vais appeler mon ami pour qu'il attrape son chien. Le maître lui a dit que Satan est le chien de Dieu. Pour le maîtriser, tu vas devoir implorer l'aide de Dieu. C'est ainsi que tu pourras te protéger de ses attaques. Tu ne dois pas être fier de tes actions. Tu ne dois pas être fier du fait que tu as eu cette connaissance et que tu maîtrises ces questions qui ont trait à la moralité et que tu sais ce que c'est que la vertu et que tu pries. Tu ne dois pas être fier de tout cela. Si tu en es fier, eh bien, Satan va s'attaquer à toi et tu ne pourras rien faire. Il faudra implorer l'aide de Dieu en toute sincérité. Il faudra être sincère envers Dieu. C'est là que vous pourrez répondre à ces attaques lancées par Satan. Et pour se rapprocher de Dieu, il ne suffit pas d'avoir prêté allégeance aux mains du Messie promis, alayhi salam. Il ne suffit pas de corriger ses croyances. Pour cela, vous allez devoir implorer l'aide de Dieu et vous allez devoir vous prosterner en toute sincérité devant lui. Vous allez devoir lui rendre culte en toute sincérité. D'une part, vous devez implorer son aide, vous devez implorer son pardon et vous devez vous prosterner devant lui en toute sincérité. Mais il y a aussi une autre action fondamentale. Cette action fondamentale, c'est la prière ou la salat. Dieu a attiré notre attention à ce sujet dans le Saint-Coran. Et le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que la salat est le miraj ou l'apogée de l'ascension spirituelle du croyant. Et le croyant est proche de Dieu au cours de la prière. C'est au cours de la prière qu'il parle avec Dieu. Ainsi, si vous voulez vous protéger de Satan et de l'indécence de notre époque, vous allez devoir protéger vos prières, vos salats. Voilà les signes des croyants qui remportent du succès, à savoir qu'ils protègent leurs prières. C'est pour cette raison que Dieu a déclaré « Inna salata tanha anil farsha wal munkar » La prière protège de l'indécence, la prière protège des choses interdites. Cette prière que l'on accomplit sincèrement pour Dieu, une prière que l'on accomplit pour avoir le plaisir de Dieu. Ainsi, pour se protéger des attaques de Satan, il est important d'implorer l'aide de Dieu et la prière est un grand moyen pour atteindre cet objectif. Puisqu'aujourd'hui la société déborde de ses futilités, il est encore plus important d'y consacrer son attention. Il est important de surveiller les enfants afin qu'ils aient l'habitude de prier. Mais avant d'encourager les jeunes et les enfants, les grands doivent aussi faire leur analyse de conscience. Dieu a déclaré « Yuqimuna Salat », ce qui signifie que l'on doit prier en congrégation. Et moi, j'ai constaté qu'ici, qu'avec le changement du climat, ici en Occident, quand on recule les horloges lorsque la nuit est plus courte, le nombre de personnes présentes pour la prière du matin diminue. Quelque temps de cela, la prière du matin était à 5 heures et le nombre de personnes présentes avait diminué. Maintenant, on fait la prière du matin une heure plus tard et le nombre a augmenté. Ou le vendredi, il y a plus de personnes pour la prière du matin. Mais la prière va se faire plus tôt. C'est pour cette raison qu'on doit être vigilant à ce sujet, surtout les grands. Si on commence à être négligent parce que la prière est plus tôt, eh bien cela ne sied pas à l'Ahmadi. C'est pour cette raison que je suis en train de dire qu'avec le changement d'horaire, le nombre de personnes présentes pour la prière du matin ne doit pas diminuer. Si les responsables au sein de la communauté ne sont pas négligents concernant la prière en congrégation, car il y a beaucoup de négligence de leur part, eh bien, s'ils sont réguliers dans leur prière, et si à tout niveau, dans toutes les organisations, tous les responsables sont présents pour la prière en congrégation, dans la mosquée, eh bien, d'une part, on va embellir la mosquée, et d'autre part, sera un effet positif sur les jeunes et sur les enfants. Et ces jeunes et ces enfants seront vigilants à ce sujet. On doit comprendre que l'on ne jouit pas d'un statut particulier en raison de ses responsabilités au sein de la communauté. Certes, aux yeux du monde, vous aurez de l'importance. Mais la chose essentielle, c'est d'attirer l'amour de Dieu. Et cela va se faire, comme je l'ai dit, par la prière. Comme l'a dit le saint prophète Mohammed, la prière quotidienne, la salat, est l'apogée du croyant. Essayez d'atteindre ce niveau. Les responsables doivent faire leur analyse de conscience et doivent faire comprendre cela aux jeunes et aux enfants qui sont sous leur influence. Nous allons remporter du succès quand, de toutes parts, l'on va faire des efforts pour être régulier dans les prières quotidiennes. Sinon, accepter que Jésus-Christ est décédé ou croire qu'il n'y a pas de verset abrogé dans le Saint-Coran ou accepter que tous les prophètes sont innocents ou accepter le Messie premier d'Islam comme le Messie qui a été promis, comme le Mahdi qui a été promis, ces croyances ne vont pas nous faire remporter le succès. Notre succès, c'est de faire en sorte que nos actions soient en accord avec les enseignements que Dieu nous a accordés. Et l'action la plus importante pour établir cette relation avec Dieu, c'est la prière. Sinon, il serait tout à fait futile de dire que nous allons éviter le shirk ou le polythéisme. L'on sera coupable de shirk si l'on ne protège pas ses prières. Dieu a donné l'ordre d'être présent pour la prière, et si l'on ne protège pas ses prières, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui nous empêche de prier. On accordait plus d'importance à cette action, et c'est là une forme de shirk qui est cachée. Dieu a attiré notre attention vers d'autres bonnes actions. Il y a le fait de s'acquitter de ses devoirs envers ses semblables. Par avidité, certains sont en train d'usurper les droits des autres. Et je suis fortement embarrassé, attristé lorsque je reçois des lettres de la part des non-Ahmadis qui m'informent que tel ou tel Ahmadi l'a trompé. Et ces non-Ahmadis me demandent de recouvrer leurs droits. Comme j'ai dit, de telles actions sont des entraves dans le tablir. C'est un obstacle dans la voie de certains nouveaux Ahmadis. Quelques jours de cela, il y a un Ahmadi d'origine arabe qui a écrit qu'il va abandonner la Jamaat. Lorsqu'on a demandé la raison, il a fait comprendre que les actions de certains Ahmadis l'ont profondément blessé. Mais par rapport à ses croyances, il accepte le fait que le Messie promis à l'Islam est véridique. Certes, c'est une erreur de sa part que d'abandonner la Jamaat en raison de l'action de certaines personnes. Mais ces Ahmadis qui sont coupables doivent aussi se faire des soucis. Et parmi ces Ahmadis, il y a certains responsables. Ils sont devenus des obstacles dans la voie de certains et sont en train de commettre là un très grand péché. Je veux attirer votre attention concernant un autre point. Certes, par la grâce de Dieu, les membres de la communauté participent dans les sacrifices financiers. Mais il y a un autre aspect du sacrifice financier, qui est la zakat. L'on doit être vigilant à ce sujet. Surtout les femmes qui ont des bijoux, et en particulier ceux qui ont des capitaux qui n'ont pas utilisé pendant plus d'un an. L'on n'est pas vigilant à ce sujet comme on devait l'être en tant qu'Ahmadi. Il y a certainement ceux qui font leur compte et qui contribuent pour la cause de la Jamaat et qui payent aussi la zakat. Mais il y a d'autres qui pensent que s'ils contribuent dans les fonds obligatoires au sein de la Jamaat, cela suffit et que ce n'est pas la peine de payer la zakat. Tous les secrétaires mâles ne font pas des rappels à ce sujet. C'est pour cette raison que ces gens ne comprennent pas l'importance de la zakat. Il est important d'être vigilant à propos de la zakat. Et par rapport aux autres actions, il est important d'éviter tout péché qui a été condamné par le Saint-Coran, de pratiquer toute bonne œuvre qui a été préconisée par le Saint-Coran. L'on doit tout le temps avoir en tête ce dire du Messie premier l'Islam, qui déclare que nous ne devons pas enfreindre un seul des 700 commandements du Saint-Coran. Nous devons tout le temps faire de notre mieux pour éviter tout péché, même un péché qui est considéré comme insignifiant. Au tout début, j'ai cité le Messie premier l'Islam qui nous fait comprendre que nous ne devons pas être coupables de tout péché, même un péché considéré comme insignifiant. On ne doit pas croire que ce ne sont pas là des péchés. Même si les autres ne voient pas cela, on voit ses péchés soi-même et on doit utiliser le microscope de la dévotion pour étudier de près ses péchés et on va comprendre que c'est là un grand péché. Le Messie premier d'Islam a évoqué l'ostentation. C'est quelque chose que les autres ne vont pas voir. Mais si on est sincère dans ses actions, on pourra en faire le constat. La personne qui est en train d'accomplir cette action pourra faire le constat si elle est en train de le faire par ostentation ou pour plaire à Dieu. Si l'homme comprend que chaque action doit être accomplie pour le plaisir de Dieu et que c'est ainsi qu'il sera récompensé, c'est là qu'il va faire des efforts pour accomplir de bonnes œuvres. Et c'est là qu'il y aura cette quête de sa part pour accomplir de bonnes œuvres. Lorsqu'il en sera ainsi, il n'y aura pas de l'ostentation de sa part et ne va pas commettre d'autres péchés. Le Saint-Coran nous enjoint de traiter avec bienveillance les proches parents. En premier, il y a sa mère, son père, sa femme, ses enfants. Et ensuite, il y a d'autres relations. Il y a un autre point vers lequel je veux attirer votre attention. Aujourd'hui, l'intolérance a pris de l'ampleur parmi les hommes et parmi les femmes. Alors que Dieu encourage la tolérance et la patience. C'est en raison de ces lacunes que les mariages sont en train de se briser et que le nombre de ces mariages brisés est en train de prendre de l'ampleur. Quant à ceux qui ont des enfants, ils ne se soucient pas de l'influence que ces cassures ont sur leurs enfants. Il y a manque de taqwa des deux côtés. Et il y a des faiblesses concernant les actions des deux côtés. On doit aussi comprendre que notre véridicité sera évidente aux autres lorsque nous serons véridiques dans tout domaine. Si dans nos affaires personnelles, nous ne cherchons que nos avantages personnels, eh bien, après avoir prêté allégeance aux mains du Messie promis, nous ne serons pas de ceux qui sont en train de se réformer. Le Saint-Coran nous enjoint de témoigner contre nous-mêmes, contre nos parents, contre nos proches, si c'est pour présenter la vérité. Mais si dans la pratique, nos actions sont contraires à ce précepte, eh bien, comment pourrons-nous apporter de grandes révolutions? Je cite cela souvent aux non-musulmans. Je leur dis que le Saint-Coran enjoint la justice et j'annonce que c'est la Jamaat Ahmadiyya qui est en train de suivre les enseignements de l'islam. Mais si un non-Ahmadi a fait l'expérience du contraire dans les relations avec un Ahmadi, eh bien, sa déclaration n'aura pas d'effet sur lui. Un tel Ahmadi est en fait un obstacle dans la voie d'établir de l'Ahmadiyya. Ainsi, il est important de faire son analyse de conscience. Il y a d'innombrables autres commandements du Saint-Coran. Notre réforme va se faire et sera complète quand nous allons analyser chaque aspect de notre vie. Quand nous allons étudier de près nos péchés, quand nous allons nous réformer de la pratique, c'est là que nous pourrons dire que nous nous sommes acquittés de notre devoir envers la Baïra. Sinon, croire dans toutes ces déclarations n'est qu'une partie du travail et nous allons abandonner une autre partie qui est très importante. Ainsi, comme je l'ai dit, il est important de traduire dans la pratique toute bonne œuvre. L'homme ne sait pas quel est l'acte méritoire qui est insignifiant pour lui et quelle est l'action qui sera considérée comme grande pour lui. Selon les hadiths, certaines bonnes œuvres peuvent être considérées comme insignifiantes pour une personne, alors que la même action peut être grande pour une autre personne, où la définition peut changer. Par exemple, un compagnon a demandé au prophète de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, quel est l'acte le plus méritoire qu'il pourra accomplir. Le saint prophète a dit que pour toi, c'est le djihad dans le chemin de Dieu. Un autre compagnon a demandé au saint prophète quel est l'acte le plus méritoire pour sa personne et le saint prophète a répondu servir tes parents. Un autre compagnon a posé la même question au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et celui-ci a répondu que l'action la plus méritoire pour toi c'est d'accomplir la prière tahajjud. Ainsi, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a attiré l'attention de ces personnes concernant différentes actions. Ces grandes vertus ne peuvent se limiter à trois actions. Il y a d'innombrables autres actions que le saint prophète a préconisées. Selon le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la plus grande vertu pour une personne donnée, c'est d'accomplir l'action pour laquelle il y a des manquements de sa part. Ainsi, si une personne ne sert pas ses parents, si une personne ne traite pas convenablement sa femme, ses enfants, la plus grande vertu de sa part, ce n'est pas de servir la foi, la religion. Il se peut que cette personne soit en train de servir la religion pour des avantages personnels, par ostentation pour faire une bonne renommée. Quant à ces personnes qui font souffrir les membres de la famille et qui sont en sus des responsables au sein de la communauté, ces personnes doivent s'acquitter de leurs devoirs envers leurs parents, envers leurs femmes et enfants afin d'être récompensées pour les services qu'ils rendent à la religion. Si une personne est régulière dans ses contributions financières, mais qu'elle est paresseuse par rapport à la prière, la grande vertu de sa part, c'est d'être régulière dans ses prières. Il y a d'autres bonnes actions qui peuvent être insignifiantes pour certains, mais bien importantes pour d'autres. Ainsi, il n'y a pas de liste particulière pour les grandes actions et les petites actions. Le Messie premier l'Islam a cité l'ostentation. Il a dit qu'il y a ces petits péchés comme l'ostentation. Il voulait dire la même chose, c'est-à-dire apparemment c'est un petit péché, mais cela peut se transformer en très grand péché. La prière est une action méritoire, c'est un moyen pour se rapprocher de Dieu, c'est le mirage de la foi. Mais la prière accomplie par ostentation ne sera pas acceptée, au contraire sera rejetée. Il y a par exemple ces personnes qui prient mais qui usurpent les droits des autres. Leur prière ne sera pas vertueuse. Au contraire, cette personne doit s'acquitter de ses devoirs envers les autres et accomplir la prière par la suite pour être récompensée. J'ai donc cité le Messie premier, l'Islam, dans lequel il a évoqué les piliers de l'Islam. Il a évoqué le jeûne, par exemple. Les musulmans jeûnent au cours du Ramadan. Mais il y a nombre de ces personnes qui sont en train de jeûner, mais qui sont en train de mentir, de tromper les autres, d'insulter les autres ou de médire. Le saint prophète Mohammed B.S.A. lui a déclaré que celui qui jeûne et qui commet ses péchés, eh bien, son jeûne ne sera pas accepté par Dieu. Il a perdu la récompense de son jeûne. Ainsi, il faut accomplir ses actions comme Dieu nous l'a demandé de les accomplir. On doit faire chaque pas au cours de sa vie en prenant de grandes précautions. Il faut préférer le plaisir de Dieu et il faut réformer sa foi et il faut aussi réformer ses actions afin que les autres voient qu'il y a une différence entre un Ahmadi et les autres. Ainsi, nous devons comprendre le fait que nous devons éviter tout type de péché, que nous devons accomplir les bonnes œuvres afin que nous soyons des exemples pour les autres, afin que nous soyons des exemples pour les petits, afin qu'on soit des exemples pour les jeunes, afin qu'on soit un exemple au sein de sa famille, pour sa femme, ses enfants, pour qu'on soit un exemple pour ses collègues. Dans toutes ses actions, grande ou petite, on doit atteindre le niveau requis afin de déraciner la semence du mal, afin qu'on enlève le mal en nous, afin qu'on déracine le mal. Si les membres de la Jamaat ne se réforment pas, s'ils ne se réforment pas complètement, eh bien, il y aura tout le temps au sein de la Jamaat cette racine du mal. Et au moment opportun, cette graine va pousser, va germer, va porter ses fruits. Ainsi, il est important de déraciner tout mal qui se trouve en notre fort intérieur. Et c'est là que nous pourrons enlever le mal au sein de la Jamaat. On pourra aussi être un exemple pratique pour les autres. Et c'est là que Dieu va nous accorder la victoire. Et c'est là que nos prières seront exaucées, Inch'Allah. C'est là que nous pourrons nous rapprocher de Dieu. Qu'Allah nous en accorde la possibilité. Amen.